Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver dans La Côte Immo, votre nouveau rendez-vous immobilier du lundi au vendredi sur Bismart et sur Radio Immo. Et comme d'habitude, nous retrouvons Sylvain Lévy-Valencier à la coprésentation de cette émission. Bonjour Sylvain.
Comment ça va Nicolas?
Bah, toujours bien, et vous?
On va parler de patrimoine et d'architecture.
Exactement, un sujet qui nous passionne. Alors je rappelle quand même pour ceux qui nous découvrent seulement aujourd'hui, vendredi, que La Côte Immo, c'est des débats, des analyses, des expertises consacrées à l'immobilier, avec des rubriques variées, notamment un sujet d'économie, de construction de la ville qui sous-tend toutes les émissions. Aujourd'hui, effectivement, Sylvain, vous le disiez, La Côte Immo décrypte l'actualité de l'architecture du patrimoine. C'est bientôt le week-end et ça donne des idées pour aller visiter des expositions, des sites ou même, évidemment, des immeubles. Au sommaire de cette émission, nous aurons le plaisir, dans un premier temps, de recevoir Anne Démian, architecte et académicienne des Beaux-Arts. On lui demandera à quoi ressemblera la ville de demain, avec évidemment ce sujet de ville du futur décarbonée, un sujet hautement d'actualité. Nous verrons comment les architectes peuvent s'intégrer dans ces enjeux et nous enchaînerons ensuite avec Léo Guy de Narcy qui nous rendra visite également, critique d'art et responsable du centre d'art Onde à Vélizy. Nous demanderons à Léo Guy de Narcy si les grands ensembles peuvent être considérés comme des œuvres architecturales. On se retrouve tout de suite dans ImmoCity.
Et oui, Nicolas, je ne vais pas bouder mon plaisir, si vous le permettez, puisque je suis ravi d'accueillir Anne Démian sur le plateau. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes architecte et vous êtes académicienne des Beaux-Arts. Et vous êtes la première femme académicienne des Beaux-Arts. Je trouve que la symbolique est très forte. Comment se fait-il que vous soyez la première à entrer dans cette belle institution ?
Je pense que l'Institut de France et notamment l'Académie des Beaux-Arts est en train de se moderniser à grands pas. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait pour la première fois une femme à l'Académie est représentatif de cette modernisation. Moi, notamment, il y a un perpétuel qui s'appelle Laurent Petit-Gérard qui est très attaché à, on va dire, ouvrir l'Académie des Beaux-Arts à toutes les tendances. Et notamment, l'idée qu'une femme puisse être représentée était important pour lui.
En tout cas, symboliquement, ça a du sens. Vous êtes également enseignante, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, donc membre de l'Académie d'architecture. Vous dirigez votre propre agence parisienne, vous avez une trentaine de collaborateurs. Donc vous êtes, on peut dire, une personne très active. Vous avez à votre actif, citons notamment les trois tours Black Swan à Strasbourg, le lycée hôtelier de Guyancourt, le siège de la Société Générale à Fontenay-sous-Bois, où j'habite. Donc c'est très bien, ainsi qu'à Paris, plusieurs centaines de logements récents, notamment à la gare d'Auteuil et l'extension rénovation qui est en cours à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle ESPCI. Dans votre ouvrage Rêver, civilité consacrée à la ville du futur décarbonée, j'allais dire c'est presque un rêve d'urbanité, hein. Vous dites qu'un architecte doit être force de proposition pour penser la qualité des constructions et leur devenir comme patrimoine public légué aux générations futur. Mais on a l'impression d'un sentiment qu'on pourrait qualifier de sentiment d'urgence dans votre écriture. On n'arrive pas à loger les Français. En France, les personnes, vous connaissez les chiffres, hein, 12 millions de personnes mal logées, 2,5 millions de personnes en état de précarité. On a vraiment un vrai sujet en la matière avec des contraintes qui sont parfois opposées, dans lesquelles il faut préserver effectivement l'environnement. Il ne faut plus trop s'étaler parce qu'on est plutôt à l'heure de ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. Mais en même temps, on a une croissance démographique sans précédent. Je prends les autorisations de permis de construire en 1982 qui sont quasiment au même chiffre qu'aujourd'hui, sauf qu'il y avait 15 millions de Français en moins à loger. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais rares sont ceux, d'ailleurs, qui se pensent ou qui proposent, c'est un peu la trame de votre œuvre, si je peux m'exprimer ainsi, de l'urgence à transformer la ville, à transformer la densité, à transformer l'urbanité. Comment ça se fait que vous êtes si peu, finalement, à vous poser la question du futur ? Et pourquoi vous, Anne Démian, vous êtes orientée, vous avez définitivement dans votre carrière, c'est même le trait sous-jacent, orienté toute votre activité vers ce sens ?
Parce que je suis complètement, toute mon activité est liée à la volonté de faire des passerelles entre l'intérêt public et la dynamique en fait, du secteur privé, qui a pris de plus en plus le pas en fait, sur la possibilité de construire nos territoires. Donc il me semble extrêmement important d'arriver à trouver cet équilibre dans, dans cette nouvelle, en fait, ce nouveau cadre qui va nous permettre de penser les villes du futur. Et je pense qu'il faut changer de paradigme. Jusqu'à présent, on pensait surtout immeuble après immeuble. Moi, je pense que le nouvel objectif, c'est la ville, c'est-à-dire c'est le temps long. C'est comment, vous l'avez dit, les enjeux de demain, c'est des enjeux sociaux et environnementaux. Comment on va arriver à faire en fait que les villes soient plus agiles dans leur capacité à proposer en fait une possibilité à toute une population de se loger, alors même que les changements climatiques vont nous amener à avoir quand même un climat qui va être moins favorable qu'on ne l'a connu. Donc il y a vraiment cette idée de anticiper d'un point de vue, on va dire, c'est pas l'idée d'être catastrophiste, hein, c'est plutôt l'idée d'être critique par rapport à la situation. Et je pense que la question de l'agilité des villes, ça veut dire comment on va restructurer des bâtiments qui méritent de l'être et comment on va en créer de nouveaux qui vont permettre des usages peut-être plus hybrides.
Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir le courage, peut-être, d'enfin construire la ville sur la ville ? Parce que c'est ce que vous dites, vous connaissez les chiffres, hein, en 2050, 80% de l'humanité vivra dans ce qu'on appelle les centres urbains. Donc on voit bien que la notion d'urbanité dépasse très largement les grandes métropoles ou les villes telles qu'on les a connues avec cette hypermétropolisation. Comment fait-on pour résoudre cette équation, justement, de la densité et du flux démographique important, compte tenu, alors à l'échelle de la France, effectivement, on est sur des climats tempérés, donc j'allais dire que c'est gérable, mais il y a des zones du monde dans lesquelles on a un assèchement des terres, on a des afflux de population à cause de la pression hydrique, il y a des centres urbains où il y a encore un peu d'eau, je pense à l'Afrique subsaharienne et à l'Afrique continentale. La ville de demain, à quoi elle ressemblera ? Vous avez tout à l'heure parlé, on a évoqué la notion d'acceptabilité du public, vous savez, sur la verticalité, la hauteur. Et effectivement, c'est sans précédent. Il y a des projets retoqués, alors que les PLU le permettent, par des maires aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont des administrés qui leur sont parfois hostiles. C'est difficile de résoudre ces contraintes opposées quand on est architecte, non ?
Oui, mais je pense qu'il faut refaire une narration autour de la densité. C'est-à-dire que la densité, elle est perçue par le grand public comme en fait, synonyme des tours et des villes hyper denses. Donc, moi, je pense que par rapport à la question, on peut, à mon sens, allier densité et beauté. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec l'exode rural, une dissociation très forte entre les grandes villes qui, en fait, ont reçu en fait, beaucoup, beaucoup de population en très peu de temps, et les villes qui se sont vidées. Et donc, il y a eu une sorte de distanciation très forte entre les campagnes et les villes. Notamment, dans les campagnes, il y avait de moins en moins de services publics. Là, je dirais que le Covid nous a permis de prendre conscience, et beaucoup de gens se sont rendus compte, que peut-être qu'il y avait une autre façon de vivre par rapport aux grandes villes et qu'on pouvait revaloriser des territoires qui, jusqu'à présent, avaient été délaissés. Donc moi, je suis assez favorable à une densité moyenne qui permettrait de donner une alternative à ce rêve qui, pour moi, était un cul-de-sac, qui est l'idée d'avoir son pavillon et son jardin loin de tout, notamment les cités.
Vous donnez raison à certains membres du gouvernement là.
Des centaines de mètres ou des centaines de milliers de mètres carrés, en fait, on a des pavillons à perte de vue. Les gens sont complètement tributaires de leur voiture. Avec la montée du prix du pétrole, ça n'a absolument aucun sens.
Mais ça, par exemple, c'est un sujet d'architecte, le fait que le citoyen ou la citoyenne utilise ou non sa voiture. C'est une question qui doit se poser.
Moi, je considère que on n'est plus dans cette période d'architecte démiurge qui, en fait, non, mais c'est vrai.
C'est vrai ce que vous dites.
Il y a eu une période où, par exemple, Oscar Niemeyer a fait Brasilia, mais c'était, on lui a demandé aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que la ville allait résoudre tous les problèmes sociaux.
Oui, c'est très vrai.
Et Le Corbusier a écrit des traités en fait sur la manière de concevoir la modernité, mais c'était une modernité qui était la même dans le nord et sud de la France. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on est rattrapé par des questions environnementales et qu'il faut re-questionner en fait ces questions. Et que oui, c'est une question d'architecte, parce que je considère que l'architecte moderne, il doit être capable d'avoir un recul en fait par rapport aux milliers de données assez contradictoires, en fait, dont on bénéficie tous à travers des informations qui sont assez pixelisées et jamais transversales. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être des connexions à faire entre des questions sociologiques, géographiques, climatiques, scientifiques. Et en fait, l'architecte...
Et pourquoi pas philosophique.
Et philosophique, bien sûr. C'est-à-dire comment on pense notre être dans une ville collective du futur. Et donc, c'est l'architecte est, pour moi, un metteur en scène, au sens où il doit avoir l'art de la synthèse de toutes ces notions-là. Alors, donc, on n'est pas comme à la Renaissance, l'architecte était à la fois sculpteur, dessinateur, peintre, etc. Mais il peut
anatomiste, être...
Voilà,
certains.
Chaque architecte a forcément des appétences qui lui sont propres, peut-être plus en mathématiques ou en sociologie, mais c'est quand même cette ouverture, cette aptitude à créer une synthèse qui permet d'être critique par rapport à des solutions qui sont parfois, on va dire, assez... des recettes inopérantes.
Alors, je sais que vous croyez au concept de concevoir réversible. Ma question, c'est peut-être un peu naïve, un peu concrète, mais un architecte est appelé sur un bâtiment dans une ville qui en compte des milliers. Comment, vous disiez tout à l'heure qu'il faut prendre en compte l'intégralité de la ville et de l'évolution de la ville quand on conçoit un bâtiment. Comment est-ce qu'on peut faire alors que finalement on n'agit que sur un bâtiment, sur la construction d'un bâtiment, et que il y a l'architecture, mais il y a surtout les normes énergétiques, en fait, qui aujourd'hui, le principal moteur d'évolution du bâtiment, c'est les normes énergétiques. L'architecture n'est pas prise en compte, en tout cas par les pouvoirs publics aujourd'hui.
Votre question est tout à fait effectivement importante. Pour vous donner un exemple, moi je pense qu'un architecte, c'est quelqu'un qui a la possibilité de résister à une prorogation de dispositifs qui ne sont pas forcément adaptés à des évolutions, des situations qui sont changeantes. Par exemple, quand je fais les Black Swan à Strasbourg, c'était en 2014, la question de la réversibilité n'était absolument pas en jeu, et c'était un projet de 30 000 m2, on me demandait de faire du logement, des bureaux, de l'hôtel, des résidences étudiantes, résidences services, etc. Donc un projet extrêmement mixte, et en fait on me demandait d'être designer de ces différentes fonctions. Et moi, j'ai dit...
Des différents moments de vie, finalement.
Non, c'est-à-dire que souvent, l'architecte, il est là pour juste dessiner ce à quoi doivent ressembler des bureaux, ce à quoi doivent ressembler des logements, etc. Et bien moi, j'ai dit non. En fait, aujourd'hui, on était en 2014. Les problèmes, en fait, de l'agilité, en fait, de savoir ce qu'on aura besoin demain, on ne le sait pas. D'ailleurs, le programme, il a changé à plus de 50% au moment où j'ai gagné le concours et au moment où on l'a réalisé. Donc, j'ai plutôt fait la synthèse de ce que pourrait être un bâtiment commun à l'idée d'une certaine domesticité, parce que travailler ou se loger ou être étudiant ou être, on va dire, des personnes âgées, au final, on a besoin de hauteur, balcon extérieur, et de faire en sorte que le bâtiment il soit adapté climatiquement à la région. C'était à Strasbourg, donc je fais un bâtiment plutôt épais, ce qui permet d'avoir une inertie thermique. Donc je résous des problématiques énergétiques adaptées à une situation donnée. Je ne ferai pas la même chose au sud de la France.
D'accord, oui.
Et je crée en fait des espaces extérieurs qui sont, parce que comme c'est continental, à Strasbourg, il fait chaud en été. Donc les espaces extérieurs, ils sont protégés par des brises-soleil inclinables. Donc tous les espaces extérieurs sont utilisables. Donc ils ne seront pas des lieux de stockage, d'armoires quelquefois inesthétiques qu'on peut voir dans certaines opérations parce que les espaces extérieurs sont inhabitables. En fait, c'est souvent, vous savez, l'architecture, c'est du bon sens. C'est un rapport à la question de l'économie. Parce que le fait d'avoir pensé un bâtiment identique pour des bureaux, pour des logements, etc., au final, ça m'a permis de faire un bâtiment de meilleure qualité et qui va pouvoir durer dans le temps et qui va pouvoir changer. Et pour donner envie de changer, il faut que le bâtiment il soit désirable. Par exemple, Haussmann, il a fait des bâtiments désirables.
Qui sont toujours désirés aujourd'hui, d'ailleurs.
Toujours désirés, voilà. C'est-à-dire qu'il a fait des bâtiments de qualité.
À tort ou à raison.
Ah, ça, c'est un autre débat. Oui,
pour rénover un bâtiment haussmannien, par l'extérieur, d'ailleurs, de toute façon, la mairie de Paris a donné le là, c'est niette, hein, voilà. Pas de rénovation par l'extérieur pour les bâtiments haussmanniens.
Mais vous voyez, par exemple, là, c'est bâtiment par bâtiment, ils ne sont pas forcément très très bons énergétiquement, mais la ville est exemplaire, la ville haussmannienne était exemplaire d'un point de vue densité.
Bien que Paris est la ville la plus dense au monde après Bombay.
Voilà. Donc, en fait, bâtiment par bâtiment, le bâtiment ne sont pas bons d'un point de vue énergétique, mais à l'échelle de la ville, le bâtiment est très bien parce qu'à partir du moment où on aura résolu comment on arrive à allier la juxtaposition de déplacements doux et déplacements motorisés, on arrivera peut-être à faire le tour de la question.
C'est dommage, on a envie de vous poser plein de questions. D'ailleurs, je vais vous faire dessiner un rond de serviette ici, puisque vous puissiez venir plus souvent, parce que beaucoup de questions se posent sur justement le réenchantement de l'urbanité par cette attraction, puisque le beau est quelque chose qui est destiné à tous et à toutes.
Le beau est un droit social.
Voilà, réenchanter la ville est un vrai sujet par rapport à cet urbanisme triomphant des années 70 que certains ont appelé un urbanisme criminogène.
Oui.
Je fais allusion à deux ouvrages que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, « Désastre urbain » de Thierry Pacaud. Et faut-il détruire les tours de grande hauteur ? Voilà, Thierry Pacaud, que vous connaissez bien, une œuvre considérable. Mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions, parce que bien souvent, dans la fabrique de la ville, l'absence de critique et de recul nous empêche parfois d'avoir une pensée un peu ce que n'avait pas d'ailleurs, ce qu'avait le préfet Haussmann. Il faut quand même rappeler que le préfet Haussmann, c'est 30 000 immeubles abattus en 17 ans, et on a érigé une ville, ça ferait rêver n'importe quel législateur aujourd'hui.
Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup Anne Démian. Je rappelle que vous êtes architecte et académicienne des Beaux-Arts. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite avec Sylvain Lévy-Valency dans l'Expert Immo. Vous êtes toujours dans La Côte Immo, La Côte Immo, votre rendez-vous immobilier sur Bismart et Radio Immo. Nous avons à présent le plaisir de recevoir Léo Guy de Narcy. Bonjour Léo Guy de Narcy.
Bonjour.
Bienvenue dans La Côte Immo. Vous êtes critique d'art, mais vous êtes également responsable du Centre d'art de Londres à Vélizy. On va se poser ensemble la question de la considération. Comment considérer les grands ensembles urbains? Et on va se demander s'ils peuvent être considérés comme des œuvres architecturales. Alors la question peut faire sourire, parce que généralement, quand on se balade devant des grands centres, des grands ensembles urbains, ils dénotent pas forcément par leur beauté. En tout cas, c'est la vision grand public du sujet. Vous avez peut-être une vision un peu différente sur le sujet, Léo Guy de Narcy.
Oui, alors je pense que si la question doit être est-ce que ça peut être des œuvres d'art, c'est dans tous les cas des œuvres qui font partie de nombreuses œuvres d'art. C'est des œuvres avec lesquelles on vit aujourd'hui une histoire visuelle qui nous accompagne. Et en ce sens, ce que l'on a cherché à démontrer dans l'exposition Les Grands Ensembles, justement, ou encore dans l'ouvrage qui l'accompagnait, c'est comment est-ce que cette histoire visuelle des grands ensembles est également une histoire qui accompagne la modernité artistique. Si on prend pour point de départ Le Corbusier, ou effectivement cet homme de Vitruve, qui est le modulor, qui a permis de construire ensuite l'ensemble des grands ensembles, justement, jusqu'à des œuvres plus récentes dans les années 80 ou 90, moment où l'objet grand ensemble est devenu un symbole même de la création artistique à travers certains phénomènes de société comme la haine ou encore comme l'émergence du hip-hop et du rap français. Cette histoire des grands ensembles...
Ça, c'est le côté positif, on va dire, des grands ensembles. Hein. Ouais, voilà.
Oui,
artistique. Ouais, je veux dire, pour avoir grandi à Vénissieux, aux Minguettes... Et à la Duchère, à Lyon, c'est voilà, la partie enchantée, j'allais dire, des grands ensembles, effectivement, l'émergence de courants artistiques, du graphisme, du graffiti, effectivement, qui est devenu maintenant un street art inclus. Mais le corollaire des grands centres urbains a été beaucoup caractérisé par l'enclavement aussi.
Oui, et justement, quand on regarde cette histoire donc de Lyonnaise, qui est ô combien emblématique dans l'histoire des grands ensembles, notamment de ces premières révoltes urbaines qui sont nées dans cette région de France, on regarde qu'en corollaire, le travail, par exemple, d'un photographe comme Mohamed Bourouissa, dont la série Périphérie, qui a été acquise très rapidement dès 2005 par la Cité de l'Immigration, traduisait aussi dans sa présentation et dans sa mise en image de ce que devaient devenir les émeutes justement de 2005. En ce sens, les artistes ont toujours été précurseurs dans le regard qu'ils pouvaient poser sur les grands ensembles. Cette série Périphérique qui raconte aussi le parcours d'un photographe depuis le périphérique jusqu'à un travail d'éloignement aussi de ce centre, parce que l'histoire des grands ensembles, c'est aussi quand même intrinsèquement un rapport centre-périphérie, notamment dans les arts visuels, raconter déjà en amont des émeutes de 2005 ce qui devait advenir pour avoir ce côté, comme je le disais, visionnaire du travail, même dans ses aspects les plus négatifs, comme vous les soulignez.
Oui, c'est vrai que ce sont, pardonnez-moi, mais ce sont des aspects qui sont intéressants dans la vision de la cité. J'aime beaucoup ce que vous faites parce que, en fait, vous réenchantez dans la conception, même abstraite. Je ne sais pas qui est le philosophe qui disait que la culture est une nécessité futile, nécessaire à l'esprit. vous réenchantez finalement ce qui n'est pas par nature. Parce que vivant à l'intérieur de ces grands ensembles, on a une impression d'avoir une espèce de prison à ciel ouvert dans lequel on ne sort pas. D'ailleurs, c'est Roland Castro, un architecte connu, qui avait plaidé pour le désenclavement justement de ces grands ensembles. Et en même temps, vous avez raison, parce qu'effectivement, in fine, ce qui apparaissait comme laid, comme pas très beau, a laissé émerger finalement une espèce de culture urbaine qui finalement commence à avoir des aspérités extrêmement intéressantes à analyser. Donc je comprends bien le versant de tout cela.
Et ceci étant dit, je pense qu'il est aussi toujours important de rappeler que la terminologie grands ensembles, elle est toujours étonnante quand on la regarde même dans le détail. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu vaste comme un programme politique qui n'en serait pas vraiment un. Qu'est-ce que ça veut dire, grand ensemble ?
Oui, les grands ensembles avaient été créés dans les années 60 pour loger 2 millions de rapatriés dont on ne savait pas quoi faire.
Voilà, c'est une réponse collective à une situation de crise.
Il y a un urbanisme triomphant des années 70.
Et quand on regarde la question de la conservation, l'exposition donc, qui s'est tenue à Vélizy il y a coulé...
Oui, c'est ça que vous voulez mentionner. Vous avez réalisé une exposition sur le sujet où vous avez mis en exergue finalement les projets artistiques dans le bâti et notamment dans ces grands ensembles.
C'est ça. Et quand on regarde en fait les niveaux de conservation, si on voit Le Point du Jour à Boulogne, Meudon-la-Forêt ou encore Vélizy il y a coulé, qui porte en son centre un grand ensemble... Il n'y a absolument rien à voir avec ce que l'on pourrait appeler le prisme 93 ou encore des Cassianards de Marseille. C'est-à-dire que à la terminologie grands ensembles, finalement, répond une pluralité de significations énormes, pluralification de lieux, là où finalement le dénominateur commun le plus évident pour des problématiques sociales comme celles que vous soulignez serait plutôt des quartiers politiques de la ville. Mais aujourd'hui, on va continuer à les traiter par le cas de grands ensembles et par effectivement cette terminologie qui rappelle
très juste
en elle-même dans son terme quelque chose de commun autour d'enjeux sociaux, chômage endémique de masse, problème d'insalubrité, problème par rapport également aux bailleurs sociaux.
Justement, accès à l'éducation qui est bridé dès l'origine.
C'est ça, contournement des cartes scolaires et tout ça.
Voilà. Alors ça, c'est des sujets qui sont d'aujourd'hui, mais d'hier également. Aujourd'hui, on a des sujets sociaux qui sont évidemment toujours présents, même massivement présents. Vous le rappelez souvent, Sylvain, dans la Côte Imo. On a également un sujet énergétique, transition énergétique, écologie. Là, les grands ensembles aussi doivent ou peuvent faire leur mue pour aller apporter une réponse supplémentaire d'un côté social et de l'autre écologique.
Alors, bien qu'étant comme tout citoyen extrêmement concerné par la question écologique, le critique et commissaire d'exposition que je suis n'aurait aucune légitimité.
Non, mais l'expert en grands ensembles peut avoir une idée du sujet.
Non, ceci étant dit, il y a un point qui est extrêmement intéressant dans le cadre des programmes de rénovation, notamment les grands programmes en rue qui ont accompagné l'émergence des grands ensembles et qui ont permis aux arts visuels de se développer par un biais que l'on n'aurait pas soupçonné au sein des grands ensembles, avec notamment sur la grande politique en rue qui s'est mise en place justement sur le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a eu cette idée à travers le programme Borloo de faire accompagner des politiques de rénovation urbaine par le biais notamment d'artistes dans le champ du visuel. Pourquoi ? Parce qu'on s'était rendu compte que les grands programmes de rénovation précédents étaient des échecs relativement complet, parce qu'il y avait de la part des habitants un rejet de chantiers qui était extrêmement rapide, des problèmes aussi sociaux liés à des trafics qui peuvent être en place, et où effectivement l'implantation d'artistes, le travail d'artistes plasticiens sur le bâti, sur le bâtiment lui-même, en préfiguration de ce que devait être un programme de rénovation, permettait justement d'agir sur l'acceptabilité sociale de ces rénovations urbaines.
Donc l'amélioration artistique du bâtiment améliore la qualité de vie du bâtiment et voire même les échanges au quotidien.
Pas du tout, c'est là où, enfin si, mais là où l'axe était peut-être plus intéressant, c'est que l'idée était plutôt de réussir à recréer du commun autour de projets collectifs au sein des grands ensembles. C'est là où on rentre dans une démarche d'un schéma participatif, aujourd'hui assez cher aux politiques, et notamment dans le cadre des politiques de la ville, et donc on demandait aux artistes, finalement, par un biais, j'ai accompagné un programme comme celui-là, de jouer le rôle que le bailleur n'était plus en capacité de jouer, c'est-à-dire de créer des démarches collectives au sein du bâtiment.
C'est la symbolique d'une démission totale à la fois des politiques publiques. Parce que, alors moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que vous donnez aux usagers une vision proposée, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, vous tentez de leur donner une vision proposée différente de celle qui leur est prédestiné. Je m'explique. Les grands ensembles, normalement, ça se détruit. Il faudrait détruire les grands ensembles. Et ça, vous le savez déjà, puisqu'il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui préconisent la destruction des grands ensembles, je peux vous en citer quelques-uns, qui ont déjà été rasés. D'ailleurs, dans le quartier dans lequel, moi, personnellement, j'ai vécu, notamment la Duchère, il y a eu, dans le même arrondissement, une grande politique de destruction de ces grandes barres d'immeubles qui étaient délétères, et vous l'avez dit. Mais ce qui est intéressant dans votre vision, ce n'est pas le fait que vous preniez le grand ensemble en disant « il faut des grands ensembles pour faire de l'art », c'est que vous avez invité, finalement, l'art là où, quelque part, il ne pouvait pas prospérer. Et à la faveur, finalement, de conditions sociales diverses et d'origine sociale, vous l'avez rappelé, chômage de masse, accès à l'éducation, problématique de transport en commun qui enclave et qui isole les personnes, vous leur avez donné ces trucs. Je trouve que c'est un bilan extraordinaire. Justement, je pensais à celui que vous avez dans votre expérience, c'était aux Ateliers de la Cité,
oui,
à Marseille. Vous avez dressé l'inventaire d'actions qui ont été menées sur les trois dernières décennies par des artistes dans l'environnement des logements sociaux. Vous avez fait ce travail. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan, si on devait faire le bilan? En plus, alors, là où vous l'avez fait, vous l'avez fait dans un lieu hautement symbolique aussi.
Oui, le bilan est globalement, je ne sais pas si c'est forcément celui d'un échec, mais c'est celui d'une interruption. Et c'est là où, effectivement, la chose va être un peu désagréable, c'est-à-dire que personne n'a envie d'être celui qui va enterrer un programme d'action culturelle, ou encore des programmes d'action culturelle. En l'occurrence, le problème est, comme de nombreux d'ailleurs projets culturels, la question de la précarité des artistes plasticiens qui y interviennent, la précarité aussi des projets en eux-mêmes, qui sont en général là où il faudrait un programme sur 10 ans, des programmes qui vont durer une ou deux années. Et le bilan est qu'effectivement, il y a un appétit des artistes plasticiens, parce que, encore une fois, se confronter au grand ensemble, c'est aussi se confronter à ce symbole de la modernité, oui, né au même moment que l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il y a aussi
un lieu d'expérience.
Voilà, il y a aussi cette idée que, finalement, si on considère que l'art contemporain est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les grands ensembles aussi, c'est-à-dire que c'est un peu le jumeau architectural de la discipline, et aussi celui d'une attente des habitants. Après, ce serait peut-être un petit peu long à développer ici, mais il y a aussi toute cette problématique du participatif qui, dans le champ de la création contemporaine, comme dans le champ du politique, comme partout, est en général quelque chose que l'on va attendre, que l'on va réclamer, et quoi de plus difficile à saisir et à comprendre que qu'est-ce que c'est que le public d'une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est que celui qui va y participer, qu'est-ce que c'est que celui qui l'accompagne, est-ce que ce sont toujours les mêmes, est-ce qu'un passant fait partie des publics, est-ce que le simple usager fait partie du public ou des participants, et ça, on n'a pas forcément la réponse directement.
Merci beaucoup Léo Guy Denarcy, on ne pourra pas aller plus loin dans la discussion malheureusement aujourd'hui, mais c'était un plaisir de vous avoir en plateau. Je rappelle que vous êtes critique d'art et responsable du Centre d'art de Londres à Vélizy. C'est la fin du coup de la Côte Immo, c'est la fin de cette édition, mais c'est surtout la fin de la première semaine de la Côte Immo. Sylvain Lévy-Valency, on peut se féliciter de cette première semaine de la Côte Immo. Un plaisir de l'avoir co-animé à vos côtés.
Absolument, et la promesse que l'on s'est faite, puisqu'on est maintenant on est entré en vitesse de croisière, pour toutes et tous, vous qui nous regardez, c'est justement de vous donner à la fois une vision de l'immobilier, du logement, mais pas que, de la fabrique de la ville, de l'urbanité, avec tout ce qui en ressort. Et je pense que le pari est plutôt bien parti. Merci Nicolas.
Et on vous donne rendez-vous lundi prochain, une émission de la Côte Immo consacrée à tous les sujets PropTech, innovation dans l'immobilier. À lundi prochain.